Assis dans son living avec ses copains, Robert Arctor se creusait la cervelle afin de savoir s'il lui fallait un carburateur neuf, un carburateur retapé ou un ensemble bricolé carburateur collecteur. Il sentait tout autour de lui la présence électronique des holocaméras qui balayaient silencieusement la pièce, et ça lui faisait du bien.
« Tu me parais plutôt relax, » remarqua Luckman. « Moi, je serais pas tellement épanoui à l'idée de douiller 100 000 balles. »
J'ai décidé de croiser dans les parages jusqu'à ce que je repère une Oldsmobile du même modèle. Je lui faucherai son carburateur sans débourser un rond, comme tout le monde. Et surtout comme Donna, approuva Barris. J'aurais préféré qu'elle ne se soit pas trouvée là pendant notre absence l'autre jour. Donna pique tout ce qu'elle peut transporter. Et si elle ne peut pas le transporter, elle fait appel au petit copain de sa bande qui s'amène et le porte pour elle.
Je vais te raconter une histoire au sujet de Donna, dit Luckman. Un jour, Donna met 100 balles dans un distributeur automatique de timbres. Mais la machine était pétée, et voilà qu'elle se met à lui dérouler des timbres à n'en plus finir. Donna se retrouve avec des timbres plein son filet à provisions. Et ça continue. D'un seul coup, elle possède, ses petits copains ont fait le compte après, plus de 1800 timbres américains à 15 cents. Ok, très bien, mais qu'est-ce que Donna Hawthorne va faire de tout ça? Elle n'a jamais écrit une lettre de sa vie, sauf à son avocat pour engager des poursuites contre un gars qui l'avait escroqué dans un deal.
Donna? S'exclama Arctor. Elle a un avocat pour s'occuper de défauts de paiement dans une transaction illégale? Comment est-ce possible?
Elle doit se contenter de prétendre que le mec lui doit du blé.
Mais tu imagines une lettre du type « payé » où je vous traîne devant les tribunaux à propos d'un deal? Arctor était complètement ébloui, mais Donna lui faisait souvent cet effet-là.
« Bref, » enchaîna Luckman, « la voilà avec son filet plein à bord, au moins 1800 timbres, et sans savoir qu'en foutre. Impossible de les revendre à l'administration des postes. D'ailleurs, quand les mecs des postes viendraient regarnir l'appareil, ils verraient tout de suite que ça déconnait, et la personne qui se présenterait à leur guichet avec tous ses timbres à 15 cents, surtout en ruban, merde, ils sont quand même pas cons. En fait, ils la guetteraient au tournant, Donna, pas vrai? Alors elle se met à cogiter, après avoir chargé les timbres sur sa MG et levé le camp naturellement, et soudain, idée! Elle téléphone à quelques-uns de ses freaks avec qui elle travaille, et elle les fait venir avec une espèce de forêt, un brise-béton hydraulique à silencieux, un vrai bijou qu'ils ont aussi dû piquer quelque part, fais leur confiance. Et ils vont enlever le distributeur du trottoir au beau milieu de la nuit, ils le chargent à l'arrière de leur Ford Ranchero, fauché probablement, et le rapportent chez Donna, à cause des timbres.
Tu veux dire qu'elle a revendu les timbres directement? Demanda Arctor aux anges. Depuis le distributeur, un par un?
Ils ont remonté, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Ils ont réinstallé le distributeur à un carrefour très passant, mais dans un petit coin peu visible où un camion postal ne risquerait pas de le remarquer. Et ils l'ont remis en service.
Ils auraient mieux fait de se contenter de démolir la caisse, dit Barris.
Les voilà donc vendeurs de timbres. Ça dure quelques semaines, le temps que le distributeur soit à sec, ce qui devait bien finir par arriver. Alors que faire? J'imagine la cervelle de Donna en train de carburer pendant toutes ces semaines, cette cervelle de petite paysanne à Proguin. Sa famille est de souche paysanne et vient de je ne sais plus quel pays d'Europe. En tout cas, le temps que le machin tombe en panne de timbre, Donna a déjà décidé de le recycler dans la distribution de boissons non alcoolisées qui dépend aussi des postes. Mais c'est sévèrement gardé. Ce genre d'histoire peut envoyer au trou pour un bon bout de temps.
« C'est vrai ?» demanda Barris.
« Qu'est-ce qui est vrai ?» répondit Luckman.
« Cette fille est dingue. Il faudrait la commettre d'office à un asile. Vous rendez-vous compte que nos impôts à tous ont été augmentés du fait qu'elle a volé ses timbres ?»
Barris râlait à nouveau. « Écris au gouvernement pour le leur expliquer !» suggéra Luckman, le visage figé par le dégoût que lui inspirait Barris. « Et demande un timbre à Donna pour ta lettre. Elle t'en vendra un. »«
Au prix fort !» jeta Barris, tout aussi furieux. Les holocaméras enregistrent des kilomètres et des kilomètres de ça, songea Arctor. Pas des kilomètres de films morts, des kilomètres de films flippés. Ce n'était pas ce qui se passait tant que Robert Arctor se trouvait dans le champ des holocaméras qui comptait, se dit-il. C'était ce qui se passait, du moins pour lui. Pour qui? Pour Fred? Quand il se trouvait ailleurs ou qu'il dormait et que les autres passaient devant l'objectif. Donc, je devrais me tirer en laissant tous ces mecs ici et en faire venir d'autres que je connais. Je devrais ouvrir ma porte à tout le monde à partir de maintenant. Et puis, il lui vint une pensée pas très belle. Supposons que Donna figure sur ces bandes. Supposons que je la vois seule, ouvrant la fenêtre au moyen d'un couteau ou d'un manche de cuillère, et se glissant dans la maison pour voler ou détruire tout ce que je possède. Une autre Donna, telle qu'elle est réellement, ou du moins telle qu'elle est lorsque je ne peux pas la voir. Le coup de « lorsqu'un arbre tombe dans la forêt ». Comment est Donna lorsqu'il n'y a personne pour l'observer? La fille douce, super douce que je connais, se transforme-t-elle instantanément? L'astuce devient-elle sournoiserie? Serais-je le témoin d'un changement qui fera sauter mes fusibles? Chez Donna, Luckman, ou aucun de ceux qui me sont chers? Voir chez un chien ou un chat favori pendant qu'on est sorti? Imagine ton chat en train de vider une tête d'oreiller, puis d'y fourrer tous tes objets de valeur. Pendule électrique et radio de chevet, rasoir, tout ce que la taie peut contenir. C'est un tout autre chat qui écume ta maison quand tu n'es pas là. Il te pique tout et va le mettre au clou. Il allume tes joints ou se met à marcher au plafond. Il appelle des gens par l'interurbain histoire de saler ta note de téléphone. Et Dieu sait quoi, un vrai cauchemar, un monde inquiétant de l'autre côté du miroir. L'envers terrifiant d'une ville normale avec des créatures méconnaissables qui rampent dans les coins. Donna à quatre pattes en train de manger dans la soucoupe des bêtes. Tous les tripes psychédéliques que tu peux imaginer. Les plus sauvages, les plus obscurs, les plus horrifiants. Pendant qu'on y est, qui te dit que Bob Arctor ne se lève pas la nuit pour faire ce genre de truc? Il a des rapports sexuels avec le mur, les freaks les plus bizarres font leur apparition, toute une bande de types qu'il n'a jamais vus auparavant. Ils ont des têtes qui tournent à 360 degrés, comme les hiboux. Les micros cachés surprendront les moindres détails de leur complot dément pour faire sauter les toilettes messieurs de la station-service standard en remplissant la cuvette des WC de plastique. Dieu sait dans quel but, conçu par leur cerveau carbonisé. Et ça recommence peut-être toutes les nuits pendant qu'ils croient dormir. Et le jour, quand ils se croient sortis. Bob Arctor pourrait bien en apprendre plus long à son propre sujet qu'il n'est prêt à le supporter, et plus qu'il ne le désire à propos de Donna et de son petit blouson de cuir, de Luckman et de ses fringues sophistiquées. Et oui, même de Barris. Peut-être que Barris s'endort quand personne n'est là, et qu'il dort jusqu'à ce que quelqu'un soit de retour. Non, peu probable. Ce serait plutôt dans le genre de Barris d'aller fouiller dans le bordel qui encombre sa chambre. Sa chambre, pour la première fois, épiée 24 heures sur 24, comme le reste de la maison. Et d'en tirer un émetteur clandestin afin d'envoyer un mystérieux signal aux mystérieux fils de pute avec lesquels il trame d'habitude le genre de petit complot dont sont coutumiers les gens tels que lui. Une autre branche du service? À propos du service, Hank et son équipe ne seraient pas très heureux si Bob Arctor quittait son domicile et ne montrait plus jamais le bout de son nez sur un holofilm, maintenant que les appareils de contrôle continu avaient été installés à grands frais et avec beaucoup de soin. Donc, Arctor ne pouvait pas s'absenter afin de favoriser son plan personnel d'espionnage aux dépens du leur. Après tout, il payait la note. Dans le script qu'on allait tourner, il lui faudrait tenir le rôle de la vedette en permanence. Arctor, Arctor, songea-t-il. Bob l'acteur est pourchassé, lui qui est El Primo chasseur. Il paraît qu'on ne reconnaît jamais sa propre voix quand on l'entend pour la première fois sur un enregistrement. Et le même phénomène se produit quand on découvre sa physionomie sur vidéo ou holofilm 3D. Vous vous preniez pour un grand baraqué aux cheveux noirs? Et voilà que vous vous retrouvez, petite maigrichonne sans cheveux du tout. Est-ce comme ça que ça se passe? Mais je suis sûr de reconnaître Bob Arctor, ne serait-ce que par ses vêtements, ou tout bêtement par élimination. Si ça vit ici et que ça n'est ni Barris, ni Luckman, ça doit être Arctor. À moins que ce ne soit un chien ou un chat. Je suis un pro, j'ai de l'entraînement, j'essaierai de reconnaître ce qui marche sur les pattes arrière. Arctor prit la parole. « Hé, Barris, je vais faire un tour, histoire de voir si je peux me décrocher quelques enfées. » Puis il fit celui qui se rappelle tout d'un coup que sa voiture est HS. « Dis donc, Luckman, est-ce que ta Falcon est en état de rouler ?»« Non, » fit Luckman, après avoir considéré la question d'un air méditatif. « Je ne pense pas. »« Puis-je emprunter la tienne, Jim ?»«
Je me demande si tu saurais manœuvrer ma voiture. »
C'était la même levée de bouclier dès que quelqu'un essayait de lui emprunter sa tire. Barris prétendait avoir fait apporter des modifications secrètes aux endroits suivants. A. Suspension. B. Moteur. C. Transmission.
D. Pont arrière. E. Groupe motopropulseur. F. Circuit électrique. G. Pont avant et direction. H. Sans parler de la montre de bord, de l'allume-cigare, du cendrier, de la boîte à gants, surtout la boîte à gants qui était toujours fermée, et la radio qui avait été subtilement modifiée, mais il n'expliquait jamais comment ni pourquoi. Quand on captait un poste, on n'entendait que des blips espacés d'une minute. Toutes les touches ne vous donnaient que cette unique émission dépourvue de sens, et bizarrement, on n'entendait jamais de rock. Parfois, quand ils accompagnaient Barris pour un deal et qu'ils sortaient de la voiture, Arctor s'amusait à mettre cette station très fort, en réglant le poste d'une certaine façon. Dès qu'on touchait à la radio en son absence, Barris devenait incohérent et refusait d'ouvrir le bec sur le chemin du retour. Il ne donnait jamais la moindre explication. Quand elle était réglée sur cette fréquence, la radio émettait sans doute en direction A. des autorités, B. d'une organisation politique paramilitaire, C. du syndicat, D. d'extraterrestres dotés d'une intelligence supérieure.
« Ce que je veux dire, » fit Barris, « c'est qu'en vitesse de croisière, elle... »
Luckman le coupa brutalement. « Eh merde! Ce n'est jamais qu'une six cylindres ordinaire, bougre de con! Quand on se gare dans le bas de L.A., c'est le gars du parking qui l'a conduit. Alors pourquoi pas Bob, espèce d'enculé ?»
Bob Arctor avait ses petits gadgets, lui aussi. Il avait fait trafiquer son autoradio, mais ne s'en vantait pas.
D'ailleurs, l'initiative venait de Fred, ou de quelqu'un d'autre. En tout cas, les résultats étaient comparables à ceux que Barris se vantait d'obtenir, grâce à son bricolage électronique, et qui ne correspondait pas toujours à la vérité. Un exemple. Chaque voiture de la police émet des parasites sur tout le spectre, qu'on attribuerait sur la radio de n'importe quel véhicule civil, à une défaillance des antiparasites pour bougies. Comme si l'allumage était défectueux. Mais Bob Arctor, en tant qu'officier assermenté, avait hérité d'un gadget qui, une fois mis en place, lui a pris énormément de choses, alors que les mêmes bruits ne signifiaient rien pour la plupart des gens, qui ne se doutaient même pas que ces parasites puissent dissimuler des informations. Ces interférences apprenaient à Bob Arctor, premièrement, quelle distance séparait sa voiture de celle des policiers, deuxièmement, de quelle police il s'agissait, municipale, du comté, de la route, fédérale, etc. Et il captait lui aussi les blips minutés qui servaient de chronomètre pour les véhicules à l'arrêt. Les occupants savaient depuis combien de temps ils attendaient sans avoir à consulter leur montre-bracelet, geste qui pouvait attirer l'attention.
Cela se révélait fort utile lorsqu'il s'agissait, par exemple, de donner l'assaut à une maison au bout de 3 minutes exactement.
Le tz-tz-tz de l'autoradio servait de minuteur. Il y avait aussi, il ne l'ignorait pas, la station commerciale émettant sur modulation d'amplitude qui jouait les hit-parades entrelardées du bavardage des disques jockeys, qui était parfois un drôle de bavardage. Quand vous accrochez une station comme ça en voiture, vous n'y prêtez qu'une oreille distraite. Vous vous dites encore de la musaque et du baratin de présentateur. Il y a donc peu de chances que vous saisissiez l'instant précis où le disque jockey, du même ton jacasseur et confidentiel qu'il utilise pour annoncer « Et maintenant, à la demande de Phil et Jane, le nouveau simple de Cat Stevens », vous dit quelque chose comme « Ordre au véhicule bleu de rouler 2 kilomètres vers le nord jusqu'à Bastancherry, tandis que les autres unités… » et ainsi de suite. Arctor avait transporté pas mal de monde à bord de sa voiture, garçons et filles. Et parfois, lorsqu'un important coup de filet se préparait, il avait dû rester à l'écoute de ces informations policières clandestines, mais il ne se rappelait pas que quelqu'un eût jamais rien remarqué. Ou si cela s'était produit, les gens avaient dû mettre la chose sur le compte de la défonce ou de la paranoïa. Il connaissait également l'existence des nombreuses voitures banalisées, souvent de vieilles Chevrolet, équipées de bandes de rallye. Elles étaient toujours conduites à fond de train par des types méchamment dans le vent, mais Arctor, à l'écoute des parasites spéciaux de sa radio, savait les repérer dès que l'un d'eux lui tournait autour ou filait en le laissant sur place. Il savait aussi les ignorer. Et lorsqu'il réglait prétendument sa radio sur modulation de fréquence, il pouvait obtenir une autre station à moudre de la musaque dont le tapage constant servait de brouillage. En réalité, tous les propos tenus par ses passagers dans ces moments-là étaient captés par le micro-émetteur dissimulé à l'intérieur de son poste et transmis aux autorités. Quant à cette station un peu spéciale, même au volume maximal, les policiers ne la recevaient pas. La grille l'éliminait.
Ce que Baris prétendait posséder ressemblait jusqu'à un certain point à l'équipement radio de l'agent secret Bob Arctor. Mais Arctor n'avait pas jugé utile d'étendre les modifications de son véhicule à la suspension, au moteur, à la transmission, etc. Ça manquait de classe, et c'était bien trop évident. De plus, rien n'empêchait les milliers de dingues de la bagnole de bricoler leur engin d'une façon aussi spectaculaire. En conséquence, Arctor avait simplement demandé les crédits nécessaires à l'installation d'un moulin assez puissant, et il s'en tenait là. Les modèles de haute puissance se valent tous, et chacun est capable de doubler l'autre. Les Ferrari possèdent une suspension, une manutention et une direction qu'aucune modification secrète ne saurait égaler. Alors à quoi bon ? Et les flics ne conduisent pas des voitures de sport, même bon marché. Les Ferrari, n'en parlons pas. En fin de compte, c'est l'habileté du chauffeur qui fait la différence. Arctor devait tout de même à sa fonction officieuse un autre avantage d'ordre technique. Des pneus très inhabituels. Un progrès sur les Michelin X d'il y a quelques années qui possédaient des bandes d'acier. Ceux-ci étaient tout métal. Ils s'usaient vite, mais compensaient ce défaut par la vitesse, la puissance d'accélération. Ils coûtaient cher, mais Arctor les obtenait pour rien du service d'affectation dont ils dépendaient et qui, à la différence de la Perry, ne se déguisait pas en fontaine à Dr. Pepper. Le système fonctionnait de façon satisfaisante, mais Arctor ne parvenait à débloquer des crédits qu'en cas d'absolue nécessité. Les pneus, il les montait lui-même, quand personne ne l'observait. Pareil pour le bricolage radio. La seule crainte au sujet de la radio ne concernait pas la découverte éventuelle du secret par un Baris quelconque, mais le vol pur et simple. Du fait de ces modifications, c'était un objet particulièrement coûteux, et en cas de disparition, Arctor aurait à rendre des comptes. Naturellement, il gardait une arme à bord. Au milieu de son trip extravagant, Baris n'aurait jamais songé à la cachette choisie par Arctor. Il aurait décrété qu'il fallait trouver une planque exotique, l'intérieur de la colonne de direction ou quelques compartiments secrets. Ou encore au bout d'un fil dans le réservoir d'essence, en souvenir du sachet de cocaïne caché là par les motards d'Easy Rider. Soit dit en passant, c'est la pire planque imaginable sur un chopper. Tous les flics qui ont vu le film ont saisi d'entrée ce que des psychiatres malins ont laborieusement reconstruit. Les deux mecs voulaient être pris, et même tués si possible. Le revolver était dans la boîte à gants de sa voiture. Toutefois, les inventions pseudo-sophistiquées dont Barry s'équipait au moins en parole sa voiture correspondaient probablement dans une certaine mesure à la réalité, car beaucoup des gadgets adaptés à la radio d'Arctor faisaient partie de la routine. Leur utilisation avait été expliquée lors de débats télévisés de fin de soirée par des experts en électronique qui avaient contribué à leur mise au point, ou les connaissaient par la presse spécialisée, ou s'étaient fait virer des labos de la police et le digéraient mal. Résultat, l'individu moyen, ou comme disait Baris à sa manière hautaine et faussement éduqué, l'individu moyen typique, savait bien à cette heure qu'aucune voiture de flic n'irait se risquer à intercepter une Chevrolet 57 bricolée et ornée de bandes de rallye, conduite par un teenager apparemment défoncé, sous peine de découvrir qu'il venait d'arrêter un agent secret des stupes lancé à la poursuite de son gibier. L'individu moyen aujourd'hui comprenait donc sans peine pourquoi tous ces véhicules des stupes, lancés à tombeau ouvert, effrayant les vieilles dames et suscitant des lettres d'indignation des straights, passaient leur temps à se signaler réciproquement leur identité. Et qu'est-ce que ça changeait ? Le changement, et il serait redoutable, pourrait survenir si les voyous, les fanats de la vitesse, les motards, et surtout les pusheurs et les trafiquants, parvenaient à fabriquer ces appareils sophistiqués et à en équiper leurs véhicules. Ce jour-là, ils se tireraient à l'aise et sans être inquiétés.
« Eh bien, j'irai à pied, » dit Arctor.
C'était d'ailleurs ce qu'il voulait faire. Il venait juste d'éprouver Baris et Luckman. Il fallait qu'ils partent à pied.
« Où vas-tu ? » demanda Luckman.
« Chez Donna. »
S'y rendre à pied relevait du défi. En disant cela, il savait qu'aucun des deux hommes ne proposerait de l'accompagner. Il enfila son manteau et se dirigea vers la porte.
« À plus tard, les mecs !»«
Ma voiture !»
Baris insistait pour justifier sa dérobade.
« Si j'essayais de conduire ta voiture, » fit Arctor, « j'appuierais sur la mauvaise commande et je me retrouverais en train de flotter au-dessus de la banlieue sud de L.A. comme le ballon de Goodyear. On irait me faire déverser du borate sur les incendies de puits de pétrole. »«
Je suis heureux que tu comprennes mon point de vue, »
grommelait encore Baris au moment où Arctor referma la porte.